Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sonia Felous et Silvio Ascoli pour Bonjour. Nous parler de la création de la Bibliothèque du patrimoine juif tunisien. Bonsoir.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir ici. Alors, la communauté juive de Tunisie possède une histoire riche et ancienne, remontant à plus de 2500 ans. Pourtant, une grande partie de son patrimoine documentaire, manuscrits, registres, photographies, journaux et objets culturels est aujourd'hui menacée par le temps, la négligence et la disparition progressive de ceux qui en étaient les gardiens ancestraux. Face à cette urgence, un projet a vu le jour pour recenser, restaurer, numériser et valoriser ces archives précieuses. L'objectif, constituer une bibliothèque numérique qui sera une référence mondiale pour la préservation et la diffusion du patrimoine juif tunisien. Ce projet, déjà soutenu par des institutions et mené par, avec l'aide de bénévoles et de spécialistes en restauration, est aujourd'hui à la recherche de financement. Il s'agit non seulement d'un travail de mémoire, mais aussi d'une mission essentielle pour préserver une langue et une écriture en voie de disparition. Nous allons en parler ce soir avec nos invités et surtout comprendre comment chacun peut contribuer à cette initiative, que ce soit en apportant son soutien financier ou en partageant ses propres archives familiales. Sonia, vous êtes historienne. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases cette histoire ancestrale ? Alors, j'ai dit 2500 ans, j'ai pensé à la communauté juive de Tunisie, à Djerba, qui est arrivée avec un morceau de la pierre du temple. Est-ce une légende, une réalité ? Alors, quand date l'installation des juifs en Tunisie ?
Jusqu'à Nouvelle-Orne, c'est une légende. Du point de vue archéologique, on peut remonter au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire avec l'arrivée probablement des Romains, peut-être un peu avant avec le développement économique de Carthage, mais on est en tout cas au 1er siècle avant et après notre ère. D'ailleurs, la catacombe de Gamarth date de ces périodes-là. Hein, c'est une des plus importantes catacombes du monde méditerranéen. Ça veut donc dire que probablement la communauté juive de Tunisie du 1er au 4e siècle était extrêmement importante en nombre. Elle se perdure sans discontinuité, à part quelques moments très très rares où les Juifs quittent un peu les bords de mer pour se réfugier dans les montagnes quand l'Espagne essaie d'attraper, de conquérir la Tunisie. Et sinon, c'est peut-être un des rares endroits où il n'y a jamais eu de discontinuité de la présence juive, et surtout où il y a eu une certaine stabilité politique qui les a laissés vivre, disons, dans des conditions un peu moins difficiles que celles des autres pays arabes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un âge d'or des Juifs en Tunisie ? Ce serait quelle période ? Et quels chiffres on pourrait donner ?
Écoutez, moi je déteste le mot d'âge d'or parce que c'est toujours faux.
Sait, hein, oui.
Mais disons qu'on peut considérer que le temps de l'académie de Kairouan était un temps glorieux pour les Juifs de Tunisie, puisque Kairouan était la troisième académie juive du monde médiéval. Et que Kairouan a été le plus grand exportateur de livres hébreux dans toute la Méditerranée. Donc on sait qu'au moins du point de vue de la diffusion, en tout cas scientifique, les sages de Kairouan sont cités dans de nombreux midrashim, il y a eu une prépondérance de cette communauté au Moyen-Âge. Ensuite, nous avons les fameuses lettres des marchands, trouvées par Goyten. On sait donc qu'ils étaient très impliqués dans le commerce et le développement du commerce et l'enrichissement évidemment de certaines villes comme Sfax par exemple. Et ensuite, ils ont été, très impliqués dans le développement du commerce urbain, évidemment, comme tous les Juifs, à partir du moment où ils ont eu quelques problèmes avec les histoires de prêts à intérêt, etc. Donc, ils se sont lancés dans des métiers où les musulmans n'avaient pas accès. Donc, disons qu'ils sont des moteurs de développement économique jusque pratiquement au XXe siècle. Alors, il y avait des grands points, évidemment. Il y avait les Juifs du Sud qui ne sont pas du tout de la même culture et qui n'ont pas les mêmes traditions que les Juifs du Nord. Et puis, à partir du XVIIe, vous le savez, il y a eu l'arrivée de ces Juifs « livournais », entre guillemets, qui étaient aussi des Juifs parfois tunisiens, qui avaient quitté la Tunisie quand l'Espagne menaçait de prendre le pays et qui étaient revenus après.
Alors, je vous interromps parce que j'ai vu dans les registres de Juifs livournais, de les Granats, qu'il y avait aussi des noms ashkénazes et qu'on comptabilisait les Juifs ashkénazes
Absolument.
Aussi dans ces registres.
Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Juifs plus occidentaux étaient assimilés aux Granats. Et donc d'ailleurs même Volinsky, hein, vous savez, qui a été le père de Volinsky, je crois, ou le grand-père qui a été assassiné à Tunis, est enterré du côté Grain, hein, pas du côté Twensa, au Borgel. Et donc on a en gros ces gens plus occidentalisés qui étaient assez mal vus quand même par les Twensa, qui les prenaient un peu pour des mauvais juifs. Et donc, on a une communauté, finalement, polymorphe, avec de très nombreuses langues qui circulaient, l'italien, le portugais, parce qu'il y a beaucoup de juifs du Portugal, ils sont arrivés au 15e, l'arabe parlé, l'arabe littéral, mais l'hébreu, évidemment. Donc, c'est une communauté très riche et dont la richesse apparaît beaucoup dans les publications, par exemple, jusqu'au XXe siècle.
Alors, leurs archives, où elles se trouvaient concrètement ?
Les archives, elles sont éparpillées, en fait, aujourd'hui. Et la mission de la bibliothèque juive tunisienne, c'est de les rassembler, et de les rassembler sur une plateforme numérique. Le travail de numérisation a démarré. Il y a 40 000 ketoubot tunisiennes qui sont déjà...
Alors, je vais vous poser une question en amont, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail l'origine de ce projet de bibliothèque du patrimoine juif tunisien ? Comment tout a commencé ?
Alors, longue histoire.
Ça a commencé il y a 20 ans, quand j'ai été invitée pour la première fois par Ben Ali pour donner une conférence, et que je me suis rendue sur les lieux de la communauté juive, et que j'ai vu dans quel état étaient conservées les archives de la communauté.
Elles sont en péril, en fait.
Oui. Elles sont très, très en péril, vraiment à un point que vous ne pourriez même pas imaginer. Alors, donc j'ai commencé à avoir cette idée-là qui a germé. Et à dire vrai,
c'était quoi l'idée
à peu près.
L'idée, alors, c'était de les récupérer ?
Mon idée à moi, depuis le début, et c'est l'idée maintenant qui est reprise par la société, c'était surtout d'abord de les numériser, de les sauvegarder, de les traiter. Parce qu'il y a des trous de mythes, il y avait même des pigeons qui pondaient entre les livres, il y a des manuscrits du XIVe siècle quand même. Donc, la première chose qu'on s'est dite, quand je suis arrivée là-bas, Moshe n'était pas encore revenu en Tunisie, je crois, c'était qu'il fallait absolument trouver de l'argent pour déjà faire un espace sain pour ces archives. Ensuite, les nettoyer complètement avec des professionnels.
Silvio, quel type de documents et d'archives composent ce fonds patrimonial ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples marquants de ce qu'on peut trouver ?
Alors, les exemples marquants, d'abord, c'est les registres rabbiniques qui retracent toute la vie de la communauté juive tunisienne, aussi bien celle qu'on a appelée les Twansa que la communauté juive portugaise, puisque tout ça a été rassemblé, et qui retracent depuis la fin du 19e, puisque les plus anciens doivent dater des années 1840, je crois, tous les événements marquants de la communauté, les naissances, les mariages, les guettes, tout ce qui a pu... Je ne sais pas s'il y a un registre nécrologique des décès.
Acte de décès,
il y a aussi les actes de décès.
Les actes de circoncision
Il n'y a pas d'acte pour les circoncisions.
Non.
Le plus important étant les ketubot, en fait, qui, encore aujourd'hui... elles ont été entièrement numérisées, mais elles ont permis tout récemment encore des mariages de se faire en France et dans le monde entier... pour prouver la judaïté des gens et des personnes qui voulaient se marier. Et donc il y a ça, il y a des livres anciens, et il y a une masse de correspondances absolument extraordinaires entre les différents rabbinats, probablement tous du Maghreb, et je suis tombé sur des éléments qui m'ont fait vraiment sourire, où on voit le grand rabbin d'Alexandrie écrire au grand rabbin de Tunis en lui disant « Vous avez un monsieur qui est arrivé dans votre communauté, il s'appelle comme ça, voilà donc sa photo. Attention, il est déjà marié, il a déjà des enfants, il ne faut absolument pas qu'il se remarie à nouveau, il n'a pas donné le guet. » Enfin voilà, il y a des histoires comme ça, des anecdotes qui sont formidables. Puis il y a les publications. Publications que la communauté juive, et ça Sonia pourra en parler, il y avait un nombre d'organes de presse et de publications absolument énorme pour une communauté finalement que de 100 000 âmes.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus, par exemple, de journaux publiés en judéo-arabe, en hébreu et en français, mais dans un niveau de langue qui pourrait donner quelques leçons à nos journalistes actuels, en Tunisie que partout ailleurs dans le Maghreb. On compte 48 titres pratiquement entre la fin du 19e et le 20e siècle. Et il y avait surtout aussi une grande littérature en judéo-arabe et en tunisien. Je vous rappelle que nous avons quand même Albert Memmi, entre autres. Et au Moyen-Âge aussi, on avait des grands auteurs et de grands rabbins exégètes. Sans compter tout ce qu'on ne connaît pas, parce que ce n'est pas divulgué. Je parle des exégètes médiévaux de Tunis ou même modernes. Il y a de très grands nombres de commentaires rabbiniques de rabbins qui n'ont pas été publiés, qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, et qui sont des commentaires de grands érudits. Donc, on peut retrouver finalement une bibliothèque énorme de choses qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, sauf ceux qui ont le nez dessus. Alors, et ceux-là, voilà, sont en train de peu à peu disparaître.
Alors, il faut parler aussi de la difficulté des manuscrits anciens qui sont en Mahalak, je ne sais pas si je prononce bien, donc le judéo-arabe tunisien qui n'est pas connu d'un grand nombre, donc il faut faire appel aussi à des chercheurs spécialisés dans cette langue.
Oui, et il n'y en a pas des masses. Donc, en fait, on va devoir demander de la collaboration, on doit pouvoir compter sur les jeunes du pays qui connaissent encore bien cette langue, heureusement. Il reste quand même, la communauté juive de Tunisie n'a pas disparu, comme vous le savez, et elle est en grande partie concentrée à Djerba, où justement ils maîtrisent encore cette langue et cette écriture. Donc là, c'est vraiment une chance inespérée que de faire ça vite maintenant, parce qu'il ne faudrait pas que cette génération disparaisse.
Alors, on a compris qu'il y avait urgence hein, à récupérer ces documents, à les restaurer, pardon, les numériser. Il y a plusieurs étapes, vous nous avez expliqué, qui ont été franchies. Alors, finalement, qui est à la tête de ce projet, de cette bibliothèque? Est-ce qu'il y a un bureau pour le diriger? Comment il est composé? Quel est le rôle de chacun?
Effectivement, on a créé en France, il y a à peu près une année, une association que j'ai rejointe il y a quelques mois. Cette association, c'est des gens de très bonne volonté, tous issus bien sûr de la communauté juive tunisienne, qui ont compris une chose, 100 000 juifs dans les années 60, 12 000 aujourd'hui, 1200 aujourd'hui.
1200, à peine.
Donc, il y a urgence parce que ces 1200 sont des nonagénaires pour une grande partie, et on s'est rendu compte que pour que nos générations futures sachent où elle est, il fallait savoir d'où il venait. Et si on n'entreprenait pas cette mission de conservation, de restauration de toutes ces archives, il y avait un risque d'oubli. Et on sait que la nécessité du travail de mémoire, et moi j'y ai adhéré assez rapidement quand j'ai rencontré les gens qui sont occupés sur place, parce qu'il y a une antenne extrêmement active en Tunisie, qui m'ont expliqué tout ce qu'ils faisaient, qui avaient déjà démarré toute cette activité, et j'ai voulu absolument les aider. On a eu la chance, le budget est énorme, puisque nous dépassons le million facilement d'euros pour arriver à créer cette plateforme, à restaurer, à créer cette plateforme, et aussi à faire les travaux nécessaires dans les lieux pour assurer la conservation dans des normes d'archives. Le budget était très important, mais par grande chance, il y a eu des institutions importantes, mondiales, qui ont contribué et qui ont presque financé 70% du montant nécessaire. Donc, on s'est dit que le gap n'était pas très important à combler. Donc, des bonnes volontés se sont rassemblées. Je peux citer notre présidente d'honneur, c'est Michel Fitoussi, écrivain que vous connaissez bien. Bien sûr, Sonia qui est ici présente. Nous avons Paul Boujna qui est avec nous aussi. Et il y a moi-même et notre présidente Vanina Taïeb. Tout ça sont des gens qui ont voulu se mettre autour d'une table et aider. Donc on a créé cette association qui s'appelle la Bibliothèque du patrimoine juif tunisien. Le sigle c'est BPJT. Vous trouverez ça très facilement en allant sur le site Eloasso. Eloasso héberge toutes les associations, c'est un organisme officiel. Et en allant sur ce site, il suffit de demander BPJT et vous trouverez sur le site le descriptif que nous faisons et aussi un appel aux dons, bien sûr, parce que nous avons besoin de fonds. Parallèlement à cela, nous avons décidé d'opérer un grand gala. Je peux dévoiler aujourd'hui, nous sommes encore pas tout à fait prêts au niveau contractuel sur tout, mais on peut d'ores et déjà dire que le 12 mai prochain, il y aura un très grand événement parisien. Cet événement parisien va avoir lieu dans un grand théâtre parisien et nous avons eu l'énorme chance d'obtenir de la part de Michel Boujna, qui donnera son spectacle « Les adieux au magnifique », bien sûr bénévolement, et tous les bénéfices de cette soirée iront à l'association et pourront nous permettre de continuer à finir ce travail.
Alors, pour bien comprendre, hein, on va insister, à quoi ressemblera la Bibliothèque du patrimoine juif tunisien une fois achevée? Est-ce que c'est un lieu virtuel, un site de recherche? Qui pourra y accéder et surtout comment?
Alors, il est question de faire évidemment un site virtuel qui sera ouvert à tous les individus qui s'intéressent à leur propre histoire, mais surtout à tous les chercheurs, aussi bien sociologues, historiens, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que l'histoire de la communauté juive de Tunisie ne parle pas que de la communauté juive de Tunisie, elle parle de ses rapports avec l'extérieur, elle parle de ses rapports avec la majorité tunisienne, elle parle de l'histoire de la Tunisie en général et de l'histoire des juifs en général dans le monde. C'est-à-dire qu'en vérité, elle est une partie intégrante d'un tout. Et cette histoire donc sera enfin mise à portée de main de quiconque sera à la recherche, disons, des actes de décès de 1895. Vous voyez ? Et ça, ça veut dire que ça sera un double emploi, aussi bien scientifique que purement ethnographique.
Alors, un point qui a été soulevé aussi tout à l'heure, est-ce qu'on peut envisager pour cette bibliothèque des liens avec nos institutions, notamment le consistoire? Parfois, quand on se marie, on recherche la ketouba de sa grand-mère pour être sûr de la judéité de sa mère, et parfois, c'est pas facile hein, de retrouver ces documents.
Ah ben alors là, ça va être très clair, parce que comme on va avoir besoin de sous pour faire vivre tout ça, les ketoubot seront dans une boutique en ligne où tout le monde, bien sûr, preuve du lien de filiation, parce qu'il n'est pas question que les ketoubot partent ainsi dans la nature, mais à partir du moment où on aura prouvé un lien de filiation avec la demande qui est faite, les gens pourront acheter pour une somme modique. Je crois qu'on parle d'entre 20 et 40 euros, on ne sait pas encore exactement le prix, mais ils pourront contribuer donc à faire vivre ce site en donnant une obole, on va dire, pour récupérer. Il y aura aussi quelque chose d'extraordinaire sur ce site, ce sera aussi un site collaboratif. Il y a des fonds photographiques absolument extraordinaires. Moi, j'ai vu quelques photos, et il y a la vie juive, particulièrement dans les années 50, qui sont présentes là, et l'idée, c'est effectivement de scanner tout ça, les mettre à disposition, mais on veut que ce soit collaboratif, que les gens y aillent et disent « Mais attends, ça c'est Tata Ginette en 1950, quand elle a fait le dîner de Hanouka à l'école Glatini. » Voilà, c'est ça ce qu'on veut faire. Et on aura des fonds privés qui vont venir aussi incrémenter ce fonds photographique, puisqu'il y a des grands photographes à Tunis qui avaient fait des... Et on a leurs héritiers qui se sont déjà manifestés en disant « Mais on veut mettre à disposition ce fonds photographique. » Donc en fait, ça va être quelque chose de collaboratif, ça va être quelque chose grand public, ça va être quelque chose pour les scientifiques aussi, puisqu'il va y avoir non seulement des cautions de scientifiques, mais c'est là où on va trouver tout ce qui va concerner la communauté juive tunisienne historiquement et avec les preuves écrites de leur présence dans ce pays.
Sonia, vous parliez il y a un instant d'un projet qui dépassait le simple cadre des Juifs de Tunisie ou de la Tunisie. Est-ce qu'on peut envisager des collaborations avec d'autres lieux d'archives, juives notamment, en France, en Israël, ailleurs?
Absolument. L'idée, c'est en fait d'avoir que notre lien soit accessible dans toutes sortes d'institutions, à commencer par les institutions archivistique et religieuse juive d'une part, mais aussi avec des universités sans doute. Les universités, les musées, enfin, notre idée n'est pas de fermer ces informations, au contraire, de les enfermer. Notre idée est de les diffuser et de les enrichir par voie de collaboration, comme vient de dire
Silvio. Est-ce qu'il y a des défis techniques, logistiques liés à la numérisation et l'indexation des documents qu'il faut surmonter? Est-ce que peut-être l'intelligence artificielle peut apporter des solutions aussi?
Oui, à condition de dépasser les barrières complexes de la lecture du mal et de la compréhension du
j'interviens.
Du judéo-arabe.
ChatGPT a prouvé qu'il était capable de le faire.
Le Mahalak?
Oui, madame.
Bon, sans erreur, hein, attention.
Il faut relire.
Voilà. Non, mais enfin, la question est là, évidemment. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y aura, à mon avis, plusieurs types d'archives. Ethnographiques, photographies, reconnaissance de personnes, de lieux, d'événements, etc. Les archives rabbiniques qui vont demander, évidemment, des compétences différentes et qu'on soumettra à des spécialistes et on les soumettra même pas. Les spécialistes pourront y aller, chercher et éventuellement, s'ils sont d'accord, partager leurs découvertes avec nous sur le site. Et l'idée, vraiment, c'est de faire une offre qui soit, j'allais dire, humaniste, quasiment.
Oui.
C'est-à-dire de faire en sorte que chacun y trouve son compte, aussi bien les individus que les scientifiques, mais aussi ça enregistre l'histoire que, des Juifs que l'on ne connaît pas encore, d'une partie du judaïsme qu'on ne connaît pas encore. Il y a, par exemple, des rites qui sont propres aux Juifs de Tunisie que personne ne connaît. Qui sont vraiment des spécificités, y compris dans
Donnez-nous
les religions.
Donnez-nous un exemple.
Bah, par exemple, les Juifs ont des fêtes qui ne sont pas célébrées par d'autres. Par exemple, la fête des filles, la fête des garçons.
Ah oui, la Seuda est trop.
Oui. Trop. Et ils mangent du riz à Pâques, ce que ne font pas les autres, pour des raisons historiques, hein, bien sûr. Et donc, il y a des choses comme ça qui ajoutent encore à la connaissance de la tradition juive. Et qui insistent aussi, parce que n'oubliez pas que ce genre de choses, c'est toujours lié à un contexte. Fête des garçons, parce qu'il y a une épidémie à l'époque qui fait mourir, qui fait baisser la natalité des premiers-nés. Le riz, épidémie, je ne sais pas quoi, famine, je ne sais plus ce que c'était, les raisons historiques que j'avais cherchées à l'époque. Mais c'est toujours lié au contexte historique. Donc c'est intéressant, ça enrichit tout ce que nous savons de beaucoup.
Et moi, je voudrais rajouter aussi une chose, parce que nous avons créé des groupes WhatsApp où nous avons sollicité toutes les gens de notre génération, les boomers. Les boomers qui ont vécu j'appellerais ça la parenthèse enchantée de la Tunisie, entre les années 50 et 70 peut-être, où ils ont vécu de très très belles années et qui ont une forme de nostalgie qui est une nostalgie de la Tunisie, mais aussi la nostalgie de leur enfance, cette période d'innocence, cette période où ils étaient dans l'insouciance, où ils vous parleront tous de la même chose, c'est-à-dire des petits souvenirs où on allait tous à la plage, on migrait de Tunis en bordure de mer, où on vivait tous ensemble, quel que soit, il n'y avait pas de différence sociale, il y avait une sorte d'unité. Si, quand même. Enfin, pour les enfants, il y avait une forme de...
Si, une sorte d'éden,
voilà,
ouais, remythifié.
Et quand je vois les réactions des groupes qu'on a créés là, par exemple, j'ai un groupe ici à 250 juifs tunisiens qui passent leur temps à s'envoyer entre eux des photos de la glace de Séchalem, le bonbon de nid de Sidi Bouzaïd. C'est absolument extraordinaire.
Les jujubes de Rosh Hashana.
Oui, mais il y a même des choses que je ne comprends pas. Je ne sais même pas de quoi il parle. Des banini et des choses comme ça. Et alors tout le monde se replonge là-dedans. Et c'est ça qui nous plaît aussi beaucoup dans ce projet. C'est finalement de revivre ces périodes d'insouciance et de les transmettre. De les transmettre aux générations futures pour leur dire voilà pourquoi on aime la Tunisie. Parce qu'on a vécu des périodes absolument extraordinaires.
Mais je reviens, excusez-moi, mais obligé sur la partie quand même scientifique, très très riche. Tout ce que ces archives vont dévoiler, vont mettre à la portée du public et des scientifiques, qui est absolument inédit. Moi j'ai vu la masse de documents, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations à trouver dans ces textes.
Alors c'est vous, Sonia, qui allez chapeauter ce travail d'archivage qui est quand même assez conséquent?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà donné toutes mes archives et toutes mes photos, tout mon disque dur pour cette base de données. Je leur ai tout donné. Et j'apporterai mes compétences dans ce sur quoi je suis évidemment spécialiste.
Est-ce que vous avez besoin de rechercher des chercheurs pour travailler sur le projet ou est-ce que vous avez déjà en tête l'équipe?
Non, la vérité, c'est que nous ne voulons pas faire, le but n'est pas de se faire un travail historique, le but est de faire un travail de sauvegarde et aux historiens de nous rejoindre. Vous voyez ?
Tout simplement.
Tout simplement. Nous allons évidemment encadrer le projet par des gens qui sont des spécialistes, de façon à ce qu'ils soient organisés de telle sorte qu'ils soient utilisables par des historiens, mais au contraire, nous offrons du travail aux historiens.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Sonia Felous et de Silvio Ascoli, qui nous parlent de la création de la bibliothèque du patrimoine juif tunisien. Comment les particuliers qui possèdent des archives familiales peuvent-ils contribuer à ce projet? Est-ce qu'il y a forcément des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui détiennent des documents anciens? Est-ce qu'ils peuvent s'associer au projet?
Bien évidemment. Il faudra simplement qu'ils prennent contact avec nous. Nos coordonnées de contact sont en ligne sur le site Hello Asso, Bibliothèque du patrimoine juif tunisien. Il leur suffit de prendre contact ou même de nous appeler. Nous avons un numéro de téléphone sur lequel nous sommes joignables. Pas plus tard qu'hier, j'ai une personne qui m'a effectivement appelé en disant « j'ai un fonds photographique énorme, je voudrais absolument le mettre à disposition ». Et évidemment, on va... Alors, que ce soit en Europe, en Tunisie, dans le monde, on a la possibilité d'envoyer en fait des gens, puisqu'on s'adresse en fait à une société multinationale qui est spécialisée dans ce qui concerne l'archivage numérique. Donc, ils ont des équipes un petit peu partout, ils vont pouvoir se déplacer et aller... scanner chez les gens ou dans leur antenne ou leur filiale dans le pays dans lequel ils seront les documents.
Alors, vous avez parlé d'institutions qui sont déjà impliquées.
Oui.
Quels sont les autres besoins financiers du projet et comment nos auditrices et nos auditeurs peuvent-ils vous aider?
Alors, les auditeurs et les auditrices peuvent nous aider de manière très simple en faisant un don déjà. D'abord en adhérant. Et là, on est à la recherche d'adhérents, bien sûr. On a ouvert les adhésions il y a 2 semaines. On en est peut-être déjà à 100. On a déjà collecté pas mal de fonds. Ils peuvent donc adhérer. L'adhésion, c'est 40 euros pour tout le monde. Les moins de 26 ans, c'est 20 euros. Ils peuvent compléter avec un don ou faire un don sec s'ils le veulent. Et on a, effectivement, et je remercie, là, j'en profite parce qu'on en a eu des spontanés qui sont magnifiques. Et merci beaucoup. Et ensuite, bien évidemment, nous sommes une association d'utilité... nous sommes une association d'intérêt général. Loi de 1901, donc nous émettons bien sûr des SERFA, pas pour les adhésions, mais si, pour les adhésions aussi, je crois. Adhésion et don. Mais surtout, nous comptons beaucoup sur cette soirée du 12 mai prochain, pendant laquelle on a un grand objectif, c'est de lever un maximum de fonds. Alors, ce spectacle, on a prévu de l'ouvrir à tout le monde, bien évidemment. Il y aura des places qui vont aller de 25 euros jusqu'à 500 euros. Le carré d'or, nous le vendrons nous-mêmes directement. Dans le carré d'or, il y a 3 niveaux aussi. Je crois que ça, 150, 250 et 550. Ces places-là, bien évidemment, donneront lieu à un SERFA. Nous avons déjà quelques gros sponsors qui nous accompagnent et qui se sont déclarés. Donc, on est à la recherche de public, on est à la recherche de sponsors, on est à la recherche de donateurs, tous les gens qui seront sensibilisés à notre action et qui ont compris l'importance de la mémoire avec un grand M.
Alors, il est important de rappeler comment vous contacter pour vous soutenir. C'est uniquement par le lien de l'association?
Exactement, sur Hello Asso Banque. Bibliothèque.
Oui, si on tape sur Google, Bibliothèque du patrimoine juif tunisien, est-ce que...
On devrait arriver. C'est tout récent, donc je n'ai pas encore testé ça. Mais ce que je sais, c'est que si on va sur Hello Asso, c'est très simple. Hello Asso, tout le monde connaît. On va sur Hello Asso et à l'intérieur de Hello Asso, on nous trouve très facilement avec toutes les autres institutions et associations qui sont répertoriées à l'intérieur. Et c'est notre premier lien. On a bien sûr une page Facebook qui s'appelle Association BPJT, et on a aussi un Instagram, Association BPJT, c'est asso_BPJT.
Sonia, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à préciser?
Oui, non, je dirais juste un seul mot. Quand j'ai essayé de faire un premier budget pour la sauvegarde de ce patrimoine, on est arrivé à la conclusion, avec quelques collègues à moi scientifiques spécialisés dans dans la préservation notamment des anciens livres, etc., à des sommes faramineuses, parce que c'est un très très gros travail, et la Tunisie est très riche. Les communautés juives de Tunisie ont des bibliothèques ancestrales qui sont dans de mauvaises conditions. Donc l'important, évidemment, étant de sauvegarder tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est très important qu'on ait un soutien non seulement financier, mais aussi physique, que des volontaires nous appellent et viennent faire des campagnes de sauvegarde comme on en a déjà faites.
Silvio, en conclusion, quel est le message essentiel que vous souhaiteriez adresser à nos auditrices et à nos auditeurs pour les convaincre tout simplement de soutenir cette initiative essentielle et d'y participer?
Le message principal, c'est d'être aussi enthousiaste que j'ai pu l'être quand j'ai rencontré ces gens qui se sont dit qu'il fallait qu'on sauvegarde notre mémoire de notre peuple. J'ai mis le doigt dans une association où j'ai cru que j'allais travailler de manière épisodique. Et alors là, c'est du non-stop depuis maintenant plusieurs semaines. Et je dois leur dire que c'est passionnant ce qu'on y trouve, ce que l'on voit, ce que aujourd'hui, à mon petit niveau et à distance, auquel je peux accéder, c'est... On peut passer des heures à lire ces documents, on peut passer des heures à scruter ces photos... On peut, là, j'ai des amis qui tous les jours me disent « Ah, mais j'aimerais bien avoir la katouba de mon grand-père, de ma arrière-grand-mère. » Mais en 3 secondes, je la renvoie, ils sont scotchés, ils ne comprennent pas comment on peut faire. C'est formidable.
Alors, je peux témoigner aussi, hein, parce que comme mon nom, Schwarz, ne l'indique pas, qui est le nom de mon père, ma mère est d'origine tunisienne. Et j'ai demandé, grâce à vos services, de retrouver la katouba de mes grands-parents qui se sont mariés à Tunis, et je l'ai reçu en quelques minutes. Alors, je l'ai montré à toute la famille, ma mère, mes oncles, etc. Et c'est tellement émouvant.
C'est très émouvant.
Parce qu'elle était perdue, on ne savait pas où elle était. Ouais. Et c'est vraiment... émotionnellement, c'est un travail important, familialement, pour les universitaires, pour la recherche. En tout cas, bravo pour ce que vous faites.
En tout cas, je peux vous dire que l'équipe impliquée sur le terrain est absolument formidable. Et je peux vous dire aussi que j'ai retrouvé l'adresse de mon grand-père à Tunis, je ne savais même pas.
Moi aussi, sur la Ketouba, c'était marqué.
Son lieu de travail, c'est ce qu'il faisait, son métier, tout. Enfin, vraiment, franchement, vous serez content de participer à ce projet.
Merci beaucoup, Sonia Fellous et Sylvia Ascoli, d'avoir accepté de nous parler de la Bibliothèque du patrimoine juif tunisien. Évidemment, on vous invite à la soutenir et on vous dit à très bientôt.
À bientôt. Merci encore.
Au revoir.